Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez Radio SBS et le programme en français. Je m'appelle Marianne Murat, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons passer une heure ensemble et on commence avec le journal. Les titres de ce mardi 28 octobre, deux décès après une explosion dans une mine de Nouvelle-Galles du Sud, une enquête est en cours. Les excuses officielles d'Australie-Occidentale pour le massacre de Pinjarra, c'était en 1834. La dépouille d'un 16e otage restitué par le Hamas à Israël, l'examen du budget 2026 en France et la victoire du PSG sur Brest en Ligue 1, 3 buts à 0. On en parle dans le journal des sports de Christophe Mallet. Deux personnes sont décédées à Cobar dans le New South Wales après une explosion dans une mine. Une enquête est en cours. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Le ministre de l'Industrie, Tim Ayres, a rendu hommage aux victimes, un homme et une femme. On l'écoute.
Very distressing news for their families, their co-workers and what is a tight-knit small community there in Cobar in New South Wales's northwest end. Everybody, all of us, think of Jamie Chaffee, the new member for Parks, are thinking about those families in what is an unfolding situation in that, you know, very, very old mining facility there in Cobar. So.
Voilà, c'était Tim Ayres, le ministre de l'Industrie, et de son côté, le maire de Cobar, Jarrod Marsden, s'est exprimé sur les ondes de SBS News. Il assure qu'un soutien a été mis en place pour la communauté locale.
The mines have fairly strong, support networks with councillors and et cetera. We'll provide whatever support is necessary. Whatever the community and the families need is what we'll provide.
En voyage en dehors de l'Australie, Anthony Albanese a réitéré son soutien à l'alliance Quad. On le rappelle, Quad, c'est la coopération internationale entre l'Australie, le Japon, l'Inde et les États-Unis depuis 2021. Cette annonce d'Anthony Albanese intervient alors que le Premier ministre japonais avait appelé l'Australie à rejoindre le Japon dans sa lutte pour faire de la région Indo-Pacifique un espace libre et ouvert, je cite. Les leaders de ces quatre pays devraient se rencontrer dans quelques mois, début 2026. On écoute le Premier ministre Australien Anthony Albanese.
The Quad is an important forum and an important vehicle for us to engage Australia, the United States, Japan and India. I'm hopeful that there will be a meeting in the first quarter, I would hope, of next year. Prime Minister Modi is due to host the Quad meeting. This is a busy summit season.
On en parlait en titre, on en vient aux excuses officielles de l'État d'Australie-Occidentale pour le massacre de Pinjarra, survenu il y a 191 ans. Pinjarra, c'est à 80 km au sud de ce qui est devenu Perth aujourd'hui. Alors attention, cette brève peut être difficile pour certains auditeurs. L'attaque menée par le gouverneur de l'État de l'époque, James Stirling, accompagné de colons européens, de policiers et de soldats, avait visé une communauté Binjareb Noongar à Pinjarra, donc c'était le 28 octobre 1800. Aujourd'hui encore, on ignore le bilan officiel, mais le nombre de victimes parmi les Premières Nations, hommes, femmes et enfants, s'élèverait entre 15 et 80. Si vous avez besoin de soutien, la ligne 13 Yarn, 13 Yarn, est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 13 92 76, 13 92 67, 76, pardon. Le site internet est www.13yarn.org.au. Près de trois semaines après la signature d'un accord entre Israël et le Hamas, l'organisation palestinienne a rendu un nouveau corps d'otage à l'État hébreu. C'est le 16e. Le cercueil a été remis à la Croix-Rouge dans la bande de Gaza avant d'être confié aux forces israéliennes. La dépouille va à présent être transférée en Israël pour y être identifiée. 12 corps d'otages doivent toujours être rendus par le Hamas. Selon le gouvernement israélien, une équipe de la Croix-Rouge, des secouristes égyptiens ainsi qu'un représentant du Hamas recherchent actuellement des dépouilles d'otages à Gaza. Sur des images filmées par l'AFP TV dans le quartier d'Al-Toufa, dans la ville de Gaza, on peut voir des engins de chantier et des camions en action au milieu des ruines pour tenter de retrouver des corps. C'est la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin définitivement à 2 ans de guerre. Eh bien, cette deuxième phase comprend notamment le désarmement du Hamas, l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien de la bande de Gaza, des points qui restent encore sujets à discussion. Donald Trump qui, lui, joue avec les rumeurs sur un potentiel troisième mandat. On rappelle que le président américain est censé céder sa place en 2028. Eh bien, pour ses partisans, la manœuvre serait pourtant simple pour rester au pouvoir, un petit tour par la vice-présidence avant de se représenter.
I would love to do it. I have my best numbers ever. It's very terrible. I have my best numbers. Am I not ruling it out? You'll have to tell me. All I can tell you is that we have a great group of people, which they don't.
Voilà, c'était Donald Trump qui, dans son avion, provoquait les journalistes. Mais voilà, derrière la blague, derrière la provocation, il y a la réalité. « Je ne le ferai pas », c'est ce qu'a ajouté Donald Trump, estimant que cela reviendrait à faire le malin. « Ça ne serait pas bien », a-t-il lancé aux journalistes. Donald Trump qui, si on le croit, a donc encore 3 ans à la Maison-Blanche avant de rendre le pouvoir. On reste aux États-Unis où le Congrès patine. Après 4 semaines de shutdown, il n'y a toujours pas d'accord entre démocrates et républicains. Conséquence, des dizaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique et 40 millions de personnes qui pourraient voir leurs aides alimentaires supprimées. À Washington, la correspondance de Vincent Souriot pour RFI.
Si rien n'est réglé d'ici à samedi, au moins 25 États américains vont couper ce robinet essentiel à la survie des Américains les plus démunis. Le programme SNAP, c'est le plus important dispositif fédéral de lutte contre la pauvreté. En moyenne, les bénéficiaires de cette mesure reçoivent un peu plus de $180 par mois, environ 150 € destinés à des achats alimentaires dans les épiceries et les supermarchés. Qui en bénéficie? Les publics les plus vulnérables, les vétérans de l'armée américaine, les personnes âgées, les Américains en situation de handicap et les familles avec enfants. C'est un programme qui coûte très cher, puisqu'un Américain sur 8 a besoin de ses fonds pour vivre. Il faudrait que l'administration Trump trouve 8 milliards de dollars pour maintenir les subventions SNAP en cas de poursuite du shutdown. À ce stade, ce n'est pas la priorité du gouvernement. En désespoir de cause, les banques alimentaires se prépare à un afflux de demandes, à tel point que certains États, comme la Californie, ont décidé de mobiliser les militaires de la garde nationale pour venir en aide aux bénévoles qui distribuent les repas aux Américains dans le besoin.
En France, politique également est top départ de l'examen du budget de la Sécurité sociale. Résultat des discussions tendues dans l'hémicycle et alors que le gouvernement et la gauche semblent avancer main dans la main sur certains amendements permettant de gagner quelques milliards, le Rassemblement national de Marine Le Pen présente son contre-budget. 36 milliards d'économies, un tiers de coupe dans l'immigration avec par exemple le renvoi des étrangers sans emploi depuis un an ou encore le conditionnement des prestations aux étrangers travaillant depuis 5 ans sur le sol français. On écoute ce qu'en pense le tout récent prix Nobel d'économie, le professeur au Collège de France Philippe Agillon. Son verdict est sans appel.
Je pense que ce programme est irréaliste. Les économies sur l'immigration et la préférence nationale d'abord ne sont pas applicables en 2026, elles ne sont pas constitutionnelles et elles sont largement surestimées. Les économies sur la fraude sont fantaisistes. Si on savait économiser 5 milliards d'euros sur la fraude, on le saurait. Les économies sur le budget de l'Union européenne sont contraires aux traités et la France reçoit de l'argent de l'Union européenne. Les premières victimes d'une baisse des contributions françaises à l'Europe seraient les agriculteurs. Et les économies de 7 milliards d'euros en 2026 sur les agences et opérateurs sont inventés. Il y a un rapport sénatorial LR qui estime ces économies à un maximum de 500 millions d'euros.
Donc si je résume, vous nous dites que c'est n'importe quoi.
Ce n'est pas des gens sérieux. Ouais. Ils ne sont pas capables de gérer la France. Bon. Voilà. Le RN, c'est pas capable. Je ne leur confie pas les manettes de la France pour gouverner. Ils sont incompétents.
Dans un tout autre registre, la Jamaïque se barricade. L'ouragan Melissa, classé en catégorie maximale, se rapproche dangereusement des côtes de l'île. C'est potentiellement le pire de son histoire. Des vents jusqu'à 270 km/h, de quoi faire craindre inondations et glissements de terrain. Le Premier ministre ne cache pas son angoisse. « Je ne pense pas que les infrastructures puissent résister », c'est ce qu'il a déclaré à la télévision. Il appelle les habitants à prendre toutes les précautions nécessaires. L'ouragan Melissa a déjà fait des victimes en Haïti et en République dominicaine, Elisa Barthès.
Melissa pourrait être l'ouragan le plus violent que la Jamaïque ait connu depuis des décennies. Dans les prochaines 48 heures, les vents déjà destructeurs pourraient l'être encore plus et les inondations pourraient être catastrophiques. L'œil de l'ouragan devrait toucher la Jamaïque ce lundi soir et mardi, selon le Centre national américain des ouragans, le NHC. Sa vitesse relativement lente, d'environ 6 km/h, préoccupe les experts. Les pluies et leurs conséquences risquent de durer plus longtemps. De lourds dégâts à prévoir donc, maisons détruites, arbres et poteaux électriques fauchés, panne de courant. Le NHC craint un isolement des populations et de nouvelles victimes. Les zones touchées pourraient devenir inhabitables pendant des semaines, voire des mois. L'œil de l'ouragan devrait épargner Haïti, mais le pays est en alerte maximale. Les fortes pluies déjà présentes vont se renforcer, augmentant le risque d'inondation éclair. La protection civile incite les habitants à rester chez eux, à mettre à l'abri leurs papiers importants et à surveiller les personnes vulnérables. L'ouragan Melissa devrait ensuite remonter vers le nord et menacer Cuba.
On en profite pour faire un point sur la météo en Australie. La météo qui va dans tous les sens à peur. C'est du soleil 27 degrés, des nuages à Adélaïde 21 degrés, des averses à Melbourne comptaient 15 petits degrés, 13 seulement à Hobart, 20 à Canberra. Il y a du vent et de la pluie à Sydney, 26 degrés, 38 à Brisbane. C'est très très chaud, mais il pleut, 33 à Cairns sous le soleil. Et enfin, comme d'habitude, Darwin, il fait beau, comptait 35 degrés. C'est la fin de ce journal, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi, mais surtout restez sur SBS French. L'émission, elle, n'est pas finie. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. On continue ce programme avec le journal des sports. Il est signé Christophe Mallet.
Journal des sports en ce mardi, on débute avec du football et des résultats de la Ligue 1 en France de ce week-end. Nantes bat le Paris FC sur le score de 2-1, Monaco bat Toulouse sur le score de 1-0. Beau résultat de Lens qui bat Marseille sur le score de 2-1, Lille atomise Metz sur le score de 6-1 et le Paris Saint-Germain est allé gagner en Bretagne face à Brest sur le score de 3-0. On écoute l'entraîneur parisien Luis Enrique.
Aujourd'hui, je pense que on savait avant le match de la difficulté de ce match, de la manière que on a défendu, parce que c'est difficile de jouer contre une équipe qui a joué comme Mallorca et tous les 200 ballons qu'il faut gagner. Et je pense que on a défendu de manière différente, avec beaucoup d'aide. Je suis content de cette mentalité, de comme je pense on a joué, on a mérité la victoire. Bueno, o Savani, o Pacho, o Marquinhos, les dossiers mi-temps, parce que c'est difficile de défendre ce type de jeu contre ce type de joueur. Mais je pense que les 200 ballons, on a été très bien positionnés, on a dominé les matchs, que c'est normal parce que c'est une habitude de notre jeu, mais je pense que aujourd'hui, on a gagné le match parce qu'on a défendu très bien.
Luis Enrique est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Les autres résultats, Angers a battu Lorient sur le score de 2-0. Le Havre a battu Auxerre sur le score de 1-0. Nice bat Rennes 2-1. Et Lyon qui fait un très beau résultat, 2-1 face à Strasbourg. Donc, on écoute le Lyonnais Corentin Tolisso.
Ouais, c'est sûr que ça fait du bien d'aller la chercher comme ça. À la dernière minute, on avait vécu l'inverse il y a quelques semaines contre Toulouse. Donc quand c'est dans notre sens, c'est une bonne chose. Après, moi, on a eu du mal un peu à 10 contre 11 parce que je pense qu'on était trop impatients. Il fallait qu'on fasse plus tourner la balle, aller de droite à gauche, de gauche à droite et les faire courir pour trouver l'espace. Et au final, ça a marché sur un exploit un peu individuel de Afonso. Mais c'est une bonne chose d'avoir mis ce deuxième but et d'avoir surtout gagné ce match.
Corentin Tolisso, donc, au micro de RFI. Au classement, le Paris Saint-Germain est en tête avec 20 points. Derrière, deuxième, ce sera Lens avec 19 points. Marseille est 3e avec 18 points, Lyon est 4e avec 18 points également, Lille est 5e avec 17 points. En bas de classement, Lorient est 16e avec 8 points, Auxerre est 17e et en zone relégable avec 7 points, et Metz est 18e, et lanterne rouge donc de ce championnat avec 2 petits points seulement. Direction l'Espagne et la victoire du Real Madrid face au FC Barcelona, au Barça, dans le Classico. Victoire 2-1 avec 2 buts, un de Kylian Mbappé et un à la 43e minute de Jude Bellingham. Une très belle victoire pour le Real de Madrid qui ravit l'entraîneur du Real, Xavi Alonso.
Nous avions évidemment ce match dans le viseur. C'est une victoire très importante, pas uniquement pour les 3 points qu'elle nous rapporte, mais aussi pour que cette équipe se dise qu'elle peut gagner de grands matchs. Donc on est content de ce résultat et on va pouvoir en profiter.
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso. On écoute également la réaction d'Aurélien Tchouaméni, l'international français.
Tout le monde a joué un super match, Kama, Kylian, toute l'équipe, on a joué un top match, on a respecté le plan de jeu, tout le monde a joué à son niveau, donc forcément on est content.
Maintenant, je peux pas te donner le plan de jeu, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait l'intention de presser l'adversaire le plus possible, et surtout à la récupération de se projeter, c'est ce qu'on a fait. On a marqué 2 buts, je pense qu'on aurait pu en marquer plus, mais à la fin, la victoire elle est méritée, donc on est content. Ouais, j'ai énormément couru comme toute l'équipe, et c'était important aujourd'hui.
Voilà donc pour le Classico en Espagne. On parle de gymnastique maintenant et de la très belle performance de Kayla Nemour, championne olympique de gymnastique. Eh bien, elle est maintenant championne du monde pour l'Algérie. C'est une première, on l'écoute.
Je suis très très heureuse d'avoir gagné cette médaille aujourd'hui. Vraiment, c'était dans un petit coin de ma tête depuis les JO. Mais c'est vrai que là, le fait de l'avoir gagné, je crois que je ne réalise toujours pas que je suis championne du monde. J'ai réussi malgré les mois qui ont été difficiles et elle m'était passée sous le nez en 2023, donc vraiment je suis très heureuse. Mes objectifs sur l'année 2026, ça va être de continuer à faire des compétitions, à toujours m'améliorer et puis voilà, à viser de plus en plus grand et surtout de me faire plaisir dans ma gym et voilà, faire des compétitions avec le plaisir.
Kayla Nemour, donc championne du monde de gymnastique. Un mot d'ailleurs sur la gymnastique avec David Dortolari, il est journaliste à RFI. Il nous explique pourquoi la gym est un si beau sport.
C'est un équilibre entre le football qui est quand même souvent très inaccessible, des stars difficiles à contacter, avec lesquelles se connecter, et la dimension très humaine d'un sport comme la gymnastique. Il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul, mais dans un sport comme ça, on a plein d'histoires très humaines à raconter, parce que les entraînements sont très difficiles au quotidien, parce que ça demande de la rigueur. C'est une extraordinaire école de la vie, les leçons qu'on apprend chaque jour, et c'est un sport qui procure beaucoup d'émotions, pas forcément au top niveau comme c'était le cas cette semaine sur les mondiaux, mais aussi à des niveaux un peu inférieurs ou intermédiaires, où on voit les efforts qui sont fournis par les sportifs.
David Dortolari, donc, pour RFI. Allez, un mot de Formule 1, Grand Prix du Mexique ce week-end. Et la victoire du Britannique Lando Norris, qui d'ailleurs reprend la tête du championnat du monde. Il gagne ce Grand Prix devant Charles Leclerc. Max Verstappen complète ce podium. L'Australien Oscar Piastri est donc 5e, ce qui permet à Lando Norris de reprendre la tête de ce Grand Prix. Un Lando Norris hué au moment des discours et du podium par le public mexicain. On écoute sa réaction, Lando Norris.
I don't know why. To be honest, people can do what they want, honestly. They have the right to do it if they want to do it. So I think that's sports sometimes. I don't know why I can't stop laughing when I get booed. So it's, I think it makes it more entertaining for me. So yeah, they can keep doing it if they want. Of course. You don't want it. I prefer if people cheered for me. But I don't know. Who knows? Like I said, I just concentrated on doing my things. It was the same in what Monza and a few other places. So, yeah, I don't know why. I just can't stop laughing. So, if they want to continue, they can.
Voilà, le flegme britannique de Lando Norris. À noter du côté des Français, Esteban Ocon termine 9e de ce Grand Prix, Isaac Hadjar 13e de ce Grand Prix, et un très mauvais Grand Prix pour une Alpine. Encore une fois, Pierre Gasly finit 15e. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS, bien entendu. À tout de suite. C'était Louane avec sa chanson La pluie. On vous propose une archive à présent, une archive de 2016, quand Roberto Alagna faisait vibrer l'Australie avec une tournée mêlant opéra, racines familiales et héritage culturel.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Roberto Alagna, je vous remercie pour l'interview.
Merci à vous.
Et vous êtes en Australie pour des raisons diverses. Et lorsque vous êtes ici en Australie, vous allez avoir pour la première fois des membres de la famille qui ont émigré en Australie et que vous n'avez jamais rencontré.
Oui, je n'ai jamais rencontré parce que les membres qui sont arrivés ici, ce sont les grands-parents. Donc, ce sont maintenant les petits-enfants. Et donc, nous nous sommes perdus de vue puisque nous sommes aujourd'hui en France. Et voilà, on ne s'est jamais rencontrés. Mais ils vont venir au spectacle. Donc, je suis obligé de garder un peu secret cette rencontre parce que c'est de l'ordre privé et que je ne voudrais pas non plus qu'ils soient aussi dérangés dans leur vie. Je veux pas leur infliger ce que moi je connais partout dans le monde, qui est plaisant pour un artiste, mais pas pour des gens qui ne sont pas artistes, parce que des fois ça peut devenir aussi un peu difficile dans la vie. Voilà, donc on va garder cette rencontre secrète, mais je peux vous dire simplement qu'ils seront au spectacle. Je ne vous dis pas dans quelle ville, mais donc ce sera un moment très éprouvant pour
moi.
C'est
un secret.
Oui, très émouvant. Oui, c'est un secret et c'est quelque chose d'ordre privé.
Oui. Et vous êtes aussi pour présenter votre nouvel album.
Oui, c'est un nouvel album qui s'appelle Robertissimo. Pourquoi Robertissimo? Parce que ça, c'est une sorte de rétrospective de tout ce que j'ai fait pendant 30 ans. Donc aussi bien l'opéra que la musique populaire traditionnelle, la musique légère. Donc il y aura un ensemble de tout ça. Et donc on ne trouvait pas le disque pour pouvoir dire, on aurait pu l'appeler anthologie, je sais pas. Mais on a voulu trouver quelque chose de beaucoup plus, accessible pour les gens, mais aussi avec une sorte de proximité. Puisque c'est ça qui aujourd'hui me représente, c'est la proximité. Les gens dans la rue m'appellent Roberto. Donc on s'est dit, voilà, on va l'appeler Roberto au carré. Allez, Robertissimo.
Oui, Robertissimo. Bien, et vous avez mentionné à plusieurs reprises que tout le monde dans votre famille aime la musique.
Alors plus que ça, vous savez, j'ai une famille très artistique, bien sûr, avec mes frères d'ailleurs, qui sont aussi peintres, sculpteurs, metteurs en scène, compositeurs, enfin un peu de tout. Mais je dois dire que dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir des artistes de au niveau, avec aussi des chanteurs, hein, beaucoup de ténors dans ma famille. Déjà mon arrière-grand-père qui lui avait connu aussi Caruso, il est né et il est décédé aussi à New York. Voilà, donc ça commence très tôt cette passion du chant, mais aussi des instruments. J'ai beaucoup d'instrumentistes dans ma famille, des peintres, des poètes. Voilà, c'est une famille très très artistique. Je dois dire que beaucoup de familles siciliennes sont dans cette catégorie.
Et Luciano Pavarotti était vital pour votre carrière artistique.
Oui, Oui.
Pourquoi?
Bah parce que déjà j'avais une admiration sans borne pour cet homme. Pour moi c'était une sorte de demi-dieu. Je fais toujours la comparaison. Pour moi c'est une sorte de mélange de Bacchus et de Poséidon ensemble. Donc je le voyais comme ça, comme une sorte de surhomme. Et je dois dire que encore aujourd'hui il me manque énormément, parce que c'est vrai que j'ai fait toutes mes études en me basant sur la technique de Luciano, parce que il avait une technique parfaite, surtout dans les notes de passage, où il avait réussi à trouver le juste équilibre pour dans la couverture du son. Voilà, c'est quelque chose qu'il avait travaillé pendant des années, et donc j'ai essayé de suivre cette technique. Et je dois dire que en plus c'était l'homme qui me fascinait, parce qu'il avait une sorte de sagesse de des grands, là. Il avait la sagesse des grands. Mmh. Voilà, c'était un sage. Il avait très 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 intelligent, un humour vraiment vraiment très très décapant. Et je dois dire que voilà, quand on passait un bon moment, quand on se rencontrait.
Il a donné beaucoup de conseils.
Non, il n'a pas donné de conseils, et c'est ça qui m'a plu, parce que en fait, le seul conseil qu'il m'a donné, c'était au début quand il m'a dit ne chante pas les choses dramatiques maintenant, tu les chanteras plus tard. Aujourd'hui, il faut chanter lyrique. Voilà, c'est le seul conseil. Et je me souviens que j'étais allé le voir pour avoir justement un professeur en Italie, et lui il m'avait dit non, ne change pas de professeur, reste avec ton professeur. Mais je n'ai jamais pu lui dévoiler que mon professeur, ben c'était pas un vrai professeur d'opéra, puisque moi mon professeur c'était un instrumentiste. Un cubain, et c'était surtout un professeur que j'avais rencontré lorsque je faisais du cabaret, donc avec des Sud-Américains, et qui était un professeur de musique populaire. Voilà, mais bon, je suis resté avec lui, et voilà, et bon, je dois dire qu'aujourd'hui, je suis content, parce que, quelque part, je n'ai pas eu de déformation. Vous savez, ce qui se passe souvent, c'est que un chanteur d'opéra est programmé pour savoir émettre le son, comme un sportif. Ces athlètes qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, ils ont ça, ils ont cette programmation faite par la nature. Et c'est la même chose avec le chant. Et souvent, avec les professeurs, les conseils viennent bugger ce programme. Et c'est là que ça devient difficile. En fait, il faut essayer de méditer et de trouver en soi l'origine de cette programmation. C'est ça la difficulté de la technique.
Mais il a fortement suggéré de protéger votre voix.
Non, il m'a toujours dit de faire attention au répertoire, c'est tout, et de garder la flamme, parce que la chose importante c'est la flamme qu'on a, l'envie. Quand on perd sa voix, c'est soit on perd ses nerfs, soit on perd l'envie. Mais la voix, en réalité, si on peut parler, on peut chanter. Après, bien sûr, ça se travaille, ça vieillit, donc il faut l'adapter. C'est ça la difficulté de la voix. Mais vous savez, le respect de la voix, c'est d'avoir le respect de la voix, c'est de protéger sa voix comme un enfant, voilà, comme une femme. C'est ça le secret.
Oui, mais parfois, vous avez accepté de chanter des grands opéras ou deux grands opéras.
Oui, mais c'est ça, hein. Respecter la voix. Respecter la voix, c'est pas de ne pas chanter. Vous voyez, c'est comme si vous aviez un instrument, un Stradivarius, et parce que vous ne voulez pas l'abîmer, vous le mettez de côté et vous ne jouez pas cet instrument. Cet instrument va périr, même si c'est un Stradivarius. Vous voyez, la voix, il faut la respecter, donc il faut l'utiliser. Après, il ne faut pas l'utiliser d'une façon exagérée. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser à bon escient. Voilà, c'est ça, respecter sa voix. Vous savez, de chanter des rôles difficiles. Vous savez, Caruso a dit qu'il avait appris à chanter à partir du moment où il a chanté Aïda, Radamès. C'est là qu'il a appris à chanter. C'est parce que souvent, dans le dépassement de soi, on trouve des choses. Après, il ne faut pas chanter que des choses dramatiques. Il faut alterner. C'est ce que j'ai fait toute ma carrière. J'ai toujours chanté des choses dramatiques, mais aussi des choses lyriques et légères dans le même temps.
Maintenant, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire l'histoire de vous et l'étoile du ballet de l'Opéra National de Paris, Sylvie Guillem?
Sylvie Guillem, oui, Sylvie Guillem, c'était ma voisine, elle habitait trois maisons plus loin, et voilà, et donc il y avait une sorte de petit problème, parce que nous on était des fraîchement arrivés en France, donc moi on était là depuis quelques années, et donc on était un peu l'étranger, et donc les gens ont peur de l'étranger, ont peur des gens qui sont un peu différents, et souvent au contraire, au lieu d'aller vers l'autre, on s'en s'en éloigne. Et ça, c'est l'erreur. Et c'est l'erreur que son père a faite, c'était de dire à ses enfants, vous voyez, eux, ce sont des petits garnements, il faut pas jouer avec eux. Alors que, en réalité, on faisait la même chose, puisque un jour, on s'est rencontrés bien des années plus tard à Tokyo et on en a parlé. Et j'ai demandé à Sylvie, mais pourquoi tu passais comme ça, toujours en courant devant chez nous? Et en fait, elle m'a avoué qu'elle avait peur de passer devant notre maison. Et alors que nous, on était juste des pauvres immigrés qui étaient là et qu'on aurait voulu au contraire lier amitié avec les voisins. Et après, ça s'est fait, bien sûr, hein, avec les années. Mais au départ, c'est vrai qu'il y a une sorte de crainte et c'est dommage. Et donc, aujourd'hui, quand son père me rencontre ou rencontre mes parents, il pleure parce que il se met à la place de ce petit garçon qui jouait dans la rue et qui a fait ensuite le même chemin que sa fille, mais tout seul. Et voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés dans les plus grands théâtres du monde, à Covent Garden, à Paris, partout, où sa fille dansait et moi, je chantais. Et voilà. Donc, mais c'est une belle histoire. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi souvent les gens ont une crainte par rapport à ceux qu'ils ne connaissent pas.
Alors, avez-vous ressenti, vous avez été victime parce que vous venez d'une famille immigrante?
Je n'ai pas été victime parce que c'est vrai qu'au départ, on nous appelait les Ritals. En France, les Ritals, c'est un peu comme, comment dire, c'est un peu péjoratif. Mais bon, ensuite, c'est devenu même sympathique. Il y a même Cavana qui en a fait un livre qui s'appelle Les Ritals, qui est un livre magnifique parce que ça raconte vraiment l'histoire de tous ces immigrés italiens. Mais je dois dire que, vous savez, à l'époque, quand moi j'étais enfant, il y avait encore il y avait encore les souvenirs de la guerre, il y avait encore tous ces souvenirs-là. Donc l'italien, il était un peu mal vu. Je me souviens aussi que mes beaux-parents, les parents de Florence, ma première épouse, quand elle a annoncé qu'elle était avec un Italien, donc moi, ils étaient un peu réticents. Voilà, pour eux, c'était, oh là là, les Italiens, c'était mal vu. Et puis, peu à peu, à mon adolescence, l'Italien est devenu sympathique, il est devenu, il est devenu à la mode. Grâce à des gens comme Aldo Maccione, qui ont fait des films qui étaient comiques, qui étaient amusants, l'accent et tout ça. Et donc, l'Italien est devenu, au contraire, presque une sorte de Don Juan, et on était devenus un peu les Don Juan de l'école, parce qu'on était un peu italien. Alors, c'est vrai, Roberto, tout ça, ça sonnait un peu exotique pour eux, et c'est vrai que l'Italien est devenu vite sympathique.
Vous sentez-vous plus français ou italien?
Non, aujourd'hui, pendant longtemps, je me sentais ni français ni italien, donc j'étais un peu perdu dans ces. Je n'avais pas de fibre patriotique, mais aujourd'hui, c'est vrai que je me sens peut-être plus français parce que je suis plus en France et parce que j'ai fait mes études en France. Mais il y a toujours le sang italien. D'ailleurs, tous mes disques, on le sent dans mes disques. Quand je reviens, c'est souvent des disques italiens, siciliens, parce que j'ai besoin aussi d'affirmer mon origine et de retrouver ses origines. D'ailleurs, là, je parlais avec mon épouse qui me disait, tiens, il faudrait qu'on achète un petit appartement à Ortige, à Syracuse. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Ça serait bien parce que même pour les enfants, de retrouver aussi les origines. Vous voyez, donc, les origines sont là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bien sûr, je me sens français parce que c'est ma vie, parce que j'ai vécu beaucoup. Je suis né en France. Il y a quelque chose. J'ai trouvé une fibre patriotique en 2005 aussi. Lorsque j'ai chanté la Marseillaise, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, je me sens même presque citoyen du monde. Voilà, c'est ça qui est assez formidable. J'ai vécu un peu partout. Mon travail m'emmène dans le monde entier. Et c'est vrai que même si je ne suis plus beaucoup en France, pas beaucoup en Italie, mais je suis beaucoup partout.
Roberto Lagna, merci.
Merci à vous.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant. Le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout.
C'était un extrait de la chanson « L'inconnu en personne » interprétée par Bertrand Belin. Quoi de mieux pour découvrir l'Australie que de prendre la route? Eh bien, les road trips offrent une vision plus approfondie du pays qu'un simple vol jusqu'à votre destination. Alors, quelques conseils pour bien préparer son road trip en Australie. C'est parti!
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Quoi de mieux pour découvrir l'Australie que de prendre la route? Entre les vastes paysages, les tartes fraîches des boulangeries de campagne et les observations inattendues d'animaux sauvages, Les road trips offrent une vision plus approfondie du pays qu'un simple vol jusqu'à votre destination. Même si vous avez déjà fait des road trips ailleurs, l'Australie présente ses propres défis. Voici comment vous préparer, rester en sécurité et profiter au maximum de votre voyage. Un reportage de SBS Examines. L'Australie est immense, vraiment immense. Et parfois la meilleure façon d'en saisir l'ampleur est de la traverser en voiture. Lara Piccone, journaliste de voyage, affirme que les road trips offrent bien plus que de magnifiques paysages.
There's so many rainforests, desert, coastal hamlets, islands. You really get a sense of all the different terrains and geography in Australia. And I think you're interacting with locals, so you're starting to build a bigger picture about what Australia is.
Avec une telle ampleur, il est nécessaire de planifier à l'avance. Certaines zones sont isolées, sans réseau téléphonique ni station-service sur de longues distances. Assurez-vous de bien vous renseigner sur votre itinéraire et de vous inscrire auprès d'un service d'assistance routière avant de partir. James Williams, Head of Policy au RACV, indique qu'il y a quelques éléments essentiels à conserver dans votre voiture.
So make sure you have, for example, a first aid kit. Make sure you have an atlas. Lots of people don't have road atlases anymore, and they rely on their phones. But of course, in Australia, you might not necessarily have connection to the internet. So think about that. Think about the fact that you will be potentially in a remote or regional area, and therefore you have to be, as I said, self-contained. So take plenty of water, snacks, food, and of course also what we would call safety equipment. So things that you might need to, say, for example, jack up the car, change your tire, make sure you've got a spare tire.
Si votre voiture tombe en panne et qu'il n'y a pas de réception téléphonique, James Williams conseille de rester près de votre véhicule.
And the reason for that is quite simple. It's easier to find a car than a person if you're lost. And of course, with the car comes everything you've got in the car, like your first aid kit and your water and everything else that we talked about earlier. Ideally, you would wait for someone to drive by, wave them down and ask them for assistance and ask them to call emergency roadside assistance when they have reception, when they drive on.
Soyez toujours attentif à la faune lorsque vous conduisez en campagne, en particulier aux kangourous. Évitez de conduire à l'aube et au crépuscule lorsqu'ils sont les plus actifs. James Williams affirme qu'une collision avec un animal sauvage peut être mortelle.
It's very important that if you are in an area where you think there's wildlife, that you slow down. If you see an animal, be particularly careful. If you are in an area where you think you will hit a kangaroo and it's likely to happen, it's very important that you don't swerve, that you apply the brakes as quickly and firmly as you can, release the brake, but don't swerve because, of course, that could mean that you hit a tree or an oncoming traffic, and that's a worse outcome.
Si vous heurtez un animal, rangez votre véhicule prudemment. Vérifiez que tout le monde va bien. Et si l'animal est blessé, appelez l'Agence de protection de la faune de l'État. Les conditions de météo en Australie peuvent également avoir un impact sur les conditions des routes. James Williams rappelle aux voyageurs la vigilance, notamment en cas de conditions extrêmes, en été et en hiver.
In summer, the issue is primarily bushfires and extreme heat. Heat can have an impact on batteries, particularly if you're driving an electric vehicle. But also, of course, the risk of bushfire is significant. Always be across the emergency weather app in your local state or territory. Keep up to date with any events. Fires move extremely quickly. Crossroads, of course, and different terrain. In winter, it tends to be issues around frost, black ice, and generally cold and wet weather and visibility issues.
Le code de la route est globalement le même dans tout le pays, mais il est conseillé de vérifier les différences entre les États avant de prendre la route. Pour Lara Piccone, les road trips révèlent aussi la diversité culturelle de l'Australie.
If you're in Darwin, for example, that's really a multicultural city and there's a lot of Asian influence. It's almost like an Asian city. You go down to the Mindle Beach markets at nighttime and watch the sunset and get all those beautiful food, all the way down to like the interior of the outback where it's really very typically Australian. You've got your beautiful outback pubs. So it's a really good way to start to unravel the various cultures in the country.
Où est-ce que les Australiens aiment-ils s'arrêter en chemin? Eh bien, pensez aux boulangeries de campagne, aux petites villes, aux pubs, aux stands des fermes et aux campings. Lara Piccone affirme que les activités en plein air sont incontournables.
It's really just about getting out in nature for a lot of people, so hiking and fishing, wild swimming on the Gibb River Road. Like, there's lots of beautiful water holes, Bell Gorge, where you can swim in this incredibly remote, rocky pool. No crocodiles there. But of course, you need to be careful of that if you're anywhere around the top of Australia.
Pour les débutants des road trips, Lara Piccone suggère ses options.
There's the Great Ocean Road down in Victoria, which is a beautiful coastline to travel. There's also the Pacific Coast, which kind of goes from Brisbane to Sydney, and there's lots of beachy towns along the way. Tassie is a great spot for a road trip because it's not very big. It's like a European country. You only need to be driving for 2 hours at a time to see some different landscapes.
Ou si vous vous sentez plus aventureux.
The big ones are like your Cairns to Cape York or your Gibb River Road in the Kimberley in Western Australia, which is incredible, quite intrepid. So you need to have a four-wheel drive and you need to know what you're doing. But they're some of the really cool ones. Also along the Murray River, where you can stop and do a bit of a kayak, is also a beautiful one. There's just so many.
Pour plus d'inspiration, visitez Tourism Australia ou le site web officiel du tourisme de votre état ou territoire, qui ont tous des pages dédiées aux road trips. Abonnez-vous ou suivez le podcast Australia Explained pour plus d'informations et de conseils en Australie. Si vous avez des questions ou des idées de sujets, envoyez-nous un email à australiaexplained@sbs.com.au.
Le trompettiste Ibrahim Malouf avec cette chanson Fly With Me. Ibrahim Malouf qui était en concert à Melbourne la semaine dernière. Une date unique, une seule date en Australie. C'était la semaine dernière à Melbourne. Il est depuis reparti. Allez messieurs, dames, il est 13h passé de 58 minutes. C'est l'heure du rappel des titres. Deux décès après une explosion dans une mine de Nouvelle-Galles du Sud, une enquête est en cours, une cellule de soutien psychologique a été mise en place par le maire de la ville de Cobar. Les excuses officielles d'Australie-Occidentale pour le massacre de Pinjarra en 1834, mené par le gouverneur de l'État James Stirling, entre 15 et 80 personnes des Premières Nations étaient mortes. La dépouille d'un 16e otage restitué par le Hamas à Israël, l'organisation prétend faire face à des difficultés pour retrouver les 28 corps des Israéliens. Les liens retenus à Gaza depuis le 7 octobre. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames. Merci beaucoup de l'avoir suivi. J'ai beaucoup aimé passer cette heure en votre compagnie. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est jeudi, même fréquence, même heure. On sera ensemble à nouveau. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent mardi après-midi, un très bon mercredi. On se retrouve jeudi, messieurs, dames. Et vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de SBS French. Et vous pouvez également la retrouver sur les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Deezer. Je vous souhaite une très belle journée, messieurs, dames. Au revoir.
voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.